l'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac, qui se cultive toutes les semaines.
Ah mais attends, on est le premier jeudi du mois.
Ah oui, c'est l'actuel.
L'émission féministe pour il, elle et elle.
This time, we will do it by ourselves.
Les luttes sont toujours des luttes simultanées.
L'acte de procréation est un acte de liberté.
Non una, dimeno, pas une de moins.
Que l'aborto sea legal.
Ah, al patriarca.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actuel. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode consacré à l'actualité locale sous le prisme du féminisme. Aujourd'hui, on donne la parole aux femmes paysannes, car le Larzac, on le sait bien, c'est un territoire agricole et cette agriculture est partie intégrante de l'économie, de l'histoire et de la culture de ces territoires. On veut donc interroger la place des femmes dans tous ces aspects.
Pour en parler, nous accueillons en première partie d'émission Claire Barre, associée de la ferme des Truelles du Larzac, et Julie Bertrand, associée de la ferme de l'hôpital du Larzac. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Avec vous, nous allons aborder la question des femmes paysannes et le contexte un peu particulier du Larzac, de par son histoire de lutte agricole par rapport à l'installation de femmes sur ce territoire.
En deuxième partie, nous serons au téléphone avec Fanny Demarc, membre du collectif Paysanne et Polaire et co-autrice de la BD « Il est où le patron ?», qui dénonce le sexisme dans le milieu agricole. Retrouvez en fin d'émission la chronique littéraire d'Enora, mais aussi des conseils de cadeaux de Noël non sexistes. Mais tout de suite, c'est la revue de presse.
Radio Larzac vous présente la revue de presse, des pages aux voix.
Merci Carole, et d'ailleurs j'ai oublié de dire qu'aujourd'hui on est aussi accompagné d'Erika qui est stagiaire au planning familial, donc bonjour Erika. Donc pour cette revue de presse, il y a de bonnes nouvelles et de moins bonnes nouvelles, donc je commencerai par celle meilleure pour ne pas plomber l'ambiance tout de suite. Alors, on se réjouit tout d'abord de voir avancer le droit à l'avortement en France et aux États-Unis. Dans la dernière revue de presse, je vous avais parlé du Kentucky, où le 8 novembre a eu lieu un vote pour inscrire dans la Constitution l'interdiction du droit à l'avortement. Mais c'est le non qui l'a emporté, donc en faveur du droit à l'IVG, comme on a pu l'apprendre dans la newsletter Impact des Glorieuses. En France, en revanche, l'Assemblée nationale s'est prononcée jeudi dernier à une large majorité en faveur de l'inscription du droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. C'était une proposition de la France Insoumise, comme le rappelle France 24. Et le but, c'est de prémunir les régressions de ce droit, comme celles auxquelles on a pu assister en Pologne et aux États-Unis. Mais attention, ce n'est qu'un premier pas, car il faut maintenant que la proposition obtienne la majorité au Sénat. Et on s'égare des salles parlementaires vers les salles de cinéma, car depuis une semaine, le film She Said est programmé dans les cinémas en France. La réalisatrice Maria Schrader y retrace l'enquête du New York Times sur les accusations de viol et d'agression sexuelle contre Harvey Weinstein, qui ont déclenché le mouvement MeToo. Les actrices Carey Mulligan et Zoe Kazan portent, et je cite 20 minutes, un film instructif bâti comme un thriller. Et Libération salue également un beau film choral, sobre et minutieux, qui donne à voir la solitude des victimes qui sortent du silence. She Said sera à voir prochainement à Millau, mais il est déjà programmé à Rodez, si vous nous écoutez depuis le Nord Aveyron. Alors, l'affaire Weinstein, c'était il y a 5 ans, mais malgré la libération de la parole qu'il a déclenchée, l'omerta sur les violences sexuelles reste encore monnaie courante dans l'industrie du cinéma et ailleurs, malheureusement. Libération a récemment révélé les multiples accusations de viol et d'agression sexuelle visant Sofiane Benassé, acteur du film Les Amandiers, à l'affiche en ce moment. Comme le détaille Ouest France, une première plainte avait été déposée en février 2021 par une comédienne et ancienne compagne. Via Libération, c'est une technicienne et plusieurs personnes qui travaillent sur le tournage des Amandiers qui accusent la réalisatrice Valeria Bruni-Tedeschi et la production d'avoir protégé Sofiane Benassé en connaissance de cause. Alors si d'un côté on vous recommande le film She Said, Les Amandiers, c'est un film qu'on vous invite à boycotter. D'ailleurs, il a déjà été déprogrammé par certaines salles de cinéma, comme le cinéma Concorde à La Roche-sur-Yon. Pour terminer, je voulais revenir sur les attaques turques contre le Rojava. La région kurde autonome est gérée par une république féministe du nord et au nord-est de la Syrie. Depuis 2 semaines, la Turquie a ciblé de nombreuses infrastructures publiques dans les régions syriennes sous contrôle kurde, détruisant les moyens de subsistance de la population. Le site Kurdistan Féminin rapporte le communiqué des forces démocratiques syriennes qui condamne, et je cite, les attaques barbares turques et accuse l'occupation turque de crimes de guerre visant à porter atteinte à la résistance et à la lutte de ces territoires pour une coexistence pacifique et féministe. Amilio d'ailleurs en a exprimé le soutien aux femmes du Kurdistan et d'Iran. Vendredi dernier, à l'occasion du 25 novembre, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre. D'ailleurs, à cette occasion, plusieurs manifestations ont lieu en France et en Europe. Selon les organisatrices du mouvement Nous Toutes, 80 000 personnes ont envahi les rues à Paris et plusieurs actions ont lieu dans les différentes régions. En Italie, le mouvement Nonna Di Meno a rassemblé 100 000 manifestantes et manifestants à Rome, selon Il Fatto Quotidiano. Et c'est tout pour cette revue de presse.
Merci Sophia. Je me tourne maintenant vers nos invités. Alors Julie Bertrand, paysanne éleveuse brebis laitière, et Claire Barre, paysanne fromagère brebis et chèvres. Vous êtes toutes les deux associées de 2 fermes différentes sur le Larzac. Pourriez-vous nous raconter votre parcours ?
C'est moi qui commence.
Vas-y.
Alors moi je m'appelle Julie Bertrand, j'ai 35 ans. J'ai fait des études agricoles parce que j'ai un diplôme d'ingénieur agro. J'ai travaillé quelques années dans le conseil agricole en chambre d'agriculture comme conseillère spécialisée en ovin justement parce que c'est une production qui m'a toujours plu. Mais après quelques années d'un travail qui était vraiment... assez varié, je faisais plein de choses différentes, mais après, d'un point de vue personnel, je faisais beaucoup de trajets. Et au moment de la naissance de mon fils, donc qui a 8 ans aujourd'hui, tout ça, ça a commencé à devenir très pesant pour moi, tous ces trajets, voilà. Et puis le travail en lui-même, je commençais aussi à en perdre un peu le sens, et j'avais besoin de retrouver quelque chose, un boulot, quelque chose que je puisse vraiment en voir vraiment beaucoup de concret. Et c'était ça, en fait, qui me manquait à l'époque, dans mon précédent poste. Ça manquait de concret, en fait. Je voulais un truc vraiment... Donc j'ai réfléchi, parce que c'est pas des décisions qui sont faciles à prendre. Et j'ai réfléchi à vraiment qu'est-ce que j'avais envie de faire. Ben voilà, moi j'ai toujours aimé les animaux. Donc j'étais venue dans cette ferme quand j'étais étudiante en première année, en stage. Et j'avais adoré ce stage. J'avais vraiment découvert les brebis laitières, j'avais trouvé ça génial. Finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé donc mes anciens maîtres de stage à la ferme de l'hôpital du Larzac, puisque je savais qu'il allait y avoir un mouvement d'associés, et je leur ai proposé ma candidature pour aller travailler avec eux. Donc sur le coup, je pense qu'ils étaient un peu surpris. Et après, tout de suite, ça a été écoute, viens nous voir et on en discute. Et donc ça, c'était début septembre, je crois, un truc comme ça. Et le jour où je suis allée les voir, avec mon mari et mon fils qui avait 6 mois à l'époque, ça a été, tu peux attaquer début novembre. Eh ben ouais. Eh ben on a fait ça. On a envoyé nos deux lettres de démission. On a envoyé le préavis de notre appartement. On a tout mis dans un camion et on est parti. On habitait à Clermont-Ferrand à l'époque. Et donc on est venu s'installer à Millau. Voilà. Et donc je suis restée ensuite deux ans salariée. Et lorsque l'ancien associé que j'ai remplacé a eu l'âge de prendre la retraite, bah moi j'ai fait mon parcours à l'installation classique et je l'ai remplacé début décembre 2016, donc il y a presque 6 ans. Il y a six ans, c'est ça.
Et pour toi, Claire ?
Et moi j'ai été enseignante en histoire géo pendant 10 ans. Et pareil, au bout d'un moment, ça n'avait plus de sens. C'était trop, trop difficile, trop absurde. Voilà, tout ça, toutes les questions de hiérarchie, puis les politiques de l'éducation nationale, ça ne me correspondait plus. Et je vivais déjà dans un milieu rural et paysan avec mon ancien conjoint. Et voilà, donc j'ai commencé à faire mon propre chemin. Moi, c'était plutôt les chèvres qui m'attiraient, parce que j'avais des copines paysannes qui travaillaient là-dedans. Et donc, j'ai fait ce qu'on appelle une mise en disponibilité pour faire ma reconversion. Et je me suis lancée après à travailler dans des fermes, jusqu'à ce que j'arrive sur le Larzac, et où je me suis associée donc, avec 4 personnes au GAEC des Truelles.
Et est-ce que vous avez déjà subi des remarques sexistes liées à votre travail de paysanne?
Alors moi, je dirais que ça arrivait plus au début, en fait, où je travaillais à la ferme, et ça allait être des représentants. C'est vraiment alors la caricature, mais enfin, malheureusement, c'est vrai, ça arrive. C'est vous êtes la stagiaire, il est où le patron? Alors au début, je disais, je suis salariée, stagiaire, merci, mais un peu passé l'âge. Donc, en fait, je pense que ça venait surtout d'une méconnaissance. Mais après, d'une fois que j'ai eu, fait ma place j'ai connu un peu tous les interlocuteurs qu'on a, les gens qui passent à la ferme, ça n'arrive plus, ou alors c'est extrêmement rare. Donc mais après, je suis pas sûre que mon cas soit enfin qu'on puisse en faire une généralité, hein.
Et tu disais tout à l'heure aussi que les remarques sexistes viennent souvent de l'extérieur.
Exactement, en fait, et c'est vraiment un truc. Moi, pour ma part, les éventuelles remarques un peu, elles ne sont jamais venues des gens qui sont du monde agricole. J'ai jamais eu ça avec mes associés. Enfin, en tout cas, ils n'ont jamais. Il faudrait leur poser la question à eux, mais je pense que ça, le fait que je sois une femme, ne leur a jamais posé le problème. Donc par rapport à ça, j'ai été dans un environnement qui était quand même hyper bienveillant, hein, et je suis quand même consciente qu'à mon avis, c'est pas le cas partout.
Oui, je pense que c'est aussi le contexte du Larzac, on pourra en parler, mais c'est vrai qu'on est beaucoup de femmes paysannes à la tête de ferme, et je pense que ça aide à faire rentrer ça dans le paysage, quoi. Moi, j'ai pas non plus trop souffert de ça, des remarques sexistes. Après, j'ai, comme toute femme, il y avait plutôt des remarques de mecs relous, parce que, notamment sur les marchés. Moi, je fais les marchés, je vends mes produits sur les marchés. Bon, des mecs relous qui font des sales blagues. C'est pas forcément lié au fait que je sois paysanne, mais au fait que je sois une femme, quoi. Ils se permettent. Mais bon, c'est clair qu'on est dans un monde quand même assez sexiste. Enfin, je vois par exemple notamment à Millau, il y a des magasins où on va acheter, je sais pas, une tronçonneuse, et puis on a des femmes en calendrier à moitié à poil avec leur tronçonneuse, quoi. Bon, quand je fais de la tronçonneuse, je suis pas en maillot, quoi. J'ai des outils de sécurité comme tout le monde. Voilà.
J'ai l'impression que c'était que leur réponse, elle comprenait déjà un peu ça, mais ouais. Du coup, le fait que vous soyez à la tête de votre ferme, comment c'est perçu par vos collègues hommes ou même dans votre environnement? Là, vous avez l'air de dire que dans le Larzac, en tout cas, ça va, quoi.
Oui, voilà, je pense qu'il y a un effet Larzac. Après, moi, j'ai eu un peu l'impression que c'était même valoriser, quoi, qu'on soit des femmes, enfin, que des femmes... Parce que moi, dans mon GAEC, avant, il n'y avait que des hommes, il y avait 5 hommes. Et depuis 5 ans, il y a un processus où, en fait, il y a des femmes qui sont arrivées. Donc maintenant, on est 3 femmes pour 2 hommes. C'était plutôt valorisé. Mais des fois, j'ai eu l'impression que c'était un peu valorisé, finalement, pour des raisons un peu genrées. C'est-à-dire que, ah bah, super, il y a des femmes, la communication est meilleure, quoi, enfin... Voilà, on est plus. Enfin, moi, j'ai eu l'impression d'être plutôt reconnue pour ce genre de compétences. Et au final, c'était vrai, quoi, parce que. Enfin, c'est vrai. Oui, bah, c'est vrai que ceux qui étaient là avant nous, que des hommes, ils parlaient pas. Et du coup, quand on travaille en collectif, c'est peut-être plus compliqué. Et voilà, mais. Et c'est vrai aussi que bah, moi, comme je suis un peu en parcours de reconversion, j'ai des compétences, notamment techniques, etc., qui n'étaient pas. Enfin, assez abouti quand je me suis installée. Et c'est... Du coup, ces compétences-là sont pas... étaient pas... Genre, c'était pas pour ça que c'était valorisé que je m'installe en tant que femme, quoi.
Ok. Voilà. Du coup, en fait, l'analyse que fait Clémentine Comer, un peu, qui est sociologue, sur le sexisme en milieu fermier, la division des tâches qui serait très genrée, donc, par exemple, plus l'administration et la vente pour les femmes sur les marchés et les hommes sur les champs, sur la Larzac, en fait, ça, ces dernières années, ça n'existe plus trop, quoi.
Alors moi, je dirais qu'en fait, le fait... Est-ce que c'est genré et je trouve qu'en fait, on se répartit plutôt les tâches par affinité. Moi, avant moi, donc c'était un homme qui faisait le travail que je fais. Le fait que je sois une femme... n'a pas grand-chose à voir avec le fait que je fasse mieux ou moins bien le travail que je fais. Et après, les tâches, on se les répartit, je pense, plus par affinité. Après, nous, c'est notre cas, en tout cas.
Bon, bah, c'est chouette.
Ouais, après, je pense que... Enfin, moi, je pense qu'il y a quand même des points de vigilance. On peut vite retomber. Bah, justement, par affinité, ça va être plus facile pour moi de faire de la gestion ou des trucs comme ça. Mais parce que bah, forcément, j'ai été plus formée là-dedans que dans la méca. Je pense qu'il y a quand même des enjeux de formation à améliorer pour que la répartition des tâches se fasse... Ouais, un peu mieux, quoi. Ou du moins que les affinités ne soient pas juste notre héritage de nous en tant que femmes. Enfin, ouais, moi, c'est comme ça que je le vois, quoi.
Et alors, vous faites de la méca ?
Moi, non. J'y connais absolument rien et j'ai jamais eu l'occasion de me former.
Alors, de la mécanique, non. Sur des... Non, ça, c'est vraiment pas mon truc. Après, si je suis en panne sur quelque chose, j'essaye de me débrouiller tant bien que mal. J'appelle. L'important, en fait, c'est de réussir à se débrouiller. Enfin, ouais. Donc, après, même si je le fais pas moi-même, je m'en fiche. À partir du moment où j'arrive à trouver une solution pour me dépatouiller, voilà. L'important, c'est de réussir à se sortir des situations un peu compliquées.
Mais c'est vrai que moi, j'avais voulu trouver un job pour faire du tracteur. Mmh. Et on m'a dit que c'était que pour les garçons. Donc, j'ai pas été prise.
Ah bon. Et tout à l'heure, on parlait aussi du congé maternité. Alors, vous m'avez dit tous les deux que vous en avez profité. Mais en fait, encore aujourd'hui, j'ai lu 45% des femmes paysannes n'en profitent pas parce qu'elles pensent qu'il faut continuer à aider et que dans certains contextes, c'est dur de couper, comme tu le disais aussi, Claire. Donc, pourquoi, d'après vous, est-ce qu'il y a d'autres raisons pour ce manque de congé maternité chez les femmes paysannes ?
Alors, je pense qu'il y a aussi est-ce qu'on est dans le cas de figure d'une exploitation familiale où, voilà, on est sur place, donc, comme c'est mon cas et comme c'est le cas pour Claire, on est hors cadre familial, donc on est associé, moi, je suis associée avec des tiers, toi aussi, Claire. En fait, la répartition du travail se fait un peu différemment, mais pour mon congé maternité, donc pour ma fille, mon deuxième enfant, on a fait le choix de prendre un salarié, même avant la date du congé, voilà, voilà, pour se soulager un peu l'hiver par rapport à la charge de travail. Après, oui, j'aurais pu partir un peu avant, j'aurais pu revenir un peu après, mais moi, j'ai arrêté de travailler 3 semaines avant la naissance de ma fille. Mais j'étais bien, ça me convenait. Et voilà, du moment où je me suis dit non, là maintenant il faut se reposer, il faut arrêter, ben, je me suis arrêtée. Et du moment où je me suis dit non, là maintenant, je me suis vraiment arrêtée. Hein, donc et après, je me suis dit ouais, non, là j'ai envie de. J'ai quand même un peu envie d'y retourner. donc du coup, ouais, enfin. Il y a par contre un truc qui vraiment me faisait mes bondir, c'était quand je faisais un peu des recherches sur Internet, voilà, comment ça se gérait, parce que c'est assez obscur hein, quand même le congé maternité pour les agricultrices, et à chaque fois je trouvais de la documentation donc sur le congé maternité, femme d'agriculteur. Mais femme d'agriculteur, ça veut dire quoi? Moi je suis pas femme d'agriculteur. Je suis une femme et je suis agricultrice. C'est quand même pas tout à fait la même chose.
Oui, il reste des cases qui n'ont pas évolué, c'est ça, en fait. Ouais. Et pour toi, Claire, tu as des choses à ajouter?
Moi, je pense que j'ai eu de la chance parce que voilà, je suis installée sur une ferme où on est plusieurs. Donc, les tâches tournent un peu. Et du coup, quand j'ai dû m'arrêter pour mon congé maternité, voilà, il y avait d'autres personnes que moi qui pouvaient assumer mon travail, plus le salarié qui a été payé par le service de remplacement. Mais c'est sûr qu'une femme seule sur sa ferme, le travail qu'effectue un salarié payé par le service de remplacement, ça peut pas être suffisant. Donc forcément, elle va être amenée à devoir intervenir... Elle peut pas tout déléguer, c'est pas possible, quoi. Puis ça dépend aussi de la saison. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir mon congé maternité à la saison creuse, où il y a forcément moins de boulot qu'en pleine saison. Sinon, ça aurait pas été du tout pareil, quoi.
Et tout à l'heure, on parlait de la situation sur le Larzac, un peu plus facile pour l'installation des femmes. Mais par exemple, au niveau des organisations syndicales, il n'y a pas encore assez de représentation de femmes aux instances, par exemple, de la FNSEA ou de la Confédération Paysanne, même si la Confédération Paysanne, c'est un petit peu plus paritaire parce qu'il y a 3 agricultrices sur 7 secrétaires au niveau national. Est-ce que vous vous sentez représentée en tant que femme dans ces organisations-là?
Alors moi, je suis à la Confédération Paysanne de l'Aveyron. Je me sens assez représentée. Il y a une commission femmes qui fait beaucoup de travail justement pour nous donner des informations et de la documentation, et puis qui fait un travail militant aussi sur les questions femmes. Après, c'est vrai, je suis au comité aussi, et puis on est 2 femmes. J'espère que j'oublie personne. 3. Il y a beaucoup plus d'hommes, je ne sais pas combien ils sont. Mais je pense que c'est aussi lié à la disponibilité de manière générale en tant que femme. Dès qu'on se met à avoir des enfants, ça prend souvent sur notre vie militante. Et c'est peut-être lié aussi, je pense, au type d'activité et à la capacité que nos activités dans nos fermes nous permettent de prendre du temps. Par exemple, si on a un troupeau de brebis viande, ça va être beaucoup plus facile de prendre du temps que si on a une activité de transformation fromagère, où là, c'est tous les jours et c'est absolument impossible de s'arrêter. Et je pense que, justement, la répartition des tâches des femmes dans les fermes peut avoir des conséquences sur leur possibilité de prendre du temps pour avoir des activités militantes.
Il faudrait aussi peut-être alors plus de personnes employées dans une ferme, plus un roulement en fait.
Oui, mais bon, il faut les payer quoi.
Ouais, bien sûr. Il nous reste encore 1 minute si vous avez une dernière question, Carole ou
oui.
Erika.
Pourquoi pas. Vous avez parlé que la situation du Larzac a été quand même un peu différente de d'autres situations par rapport aux femmes paysannes. Enfin, qu'est-ce qui fait cette différence d'après vous concrètement? Enfin, je veux dire, d'où ça viendrait
Je pense que de toute façon, il y a un historique. Il s'est passé quand même plein de choses il y a quelques années. Et tout ça, ça fait que les mentalités ont évolué, du coup, peut-être un peu plus vite qu'à l'échelle nationale. Et donc, voilà, derrière, il y a un héritage qui fait qu'aujourd'hui... La enfin ouais, la place des femmes, déjà le fait qu'il y ait beaucoup de femmes qui soient à la tête de leur ferme, soit seules, soit à plusieurs, ou qui soient même majoritaires sur certaines fermes, c'est voilà, ça vient de quelque part aussi. Donc voilà, il y a quand même un héritage de tout ça.
Oui, la structure de la SCTL, la Société Civile des Terres du Larzac, je pense que ça aide bien parce que c'est une structure qui permet que les installations soient faciles, soient hors cadre familial. Donc ça facilite les installations paysannes de manière générale et celles des femmes aussi. Et moi, je trouve que le fait qu'on soit plein de femmes à la tête de ferme sur le Larzac, ça crée une dynamique, ça crée une solidarité. Enfin, moi, par exemple, quand j'ai été enceinte, je me suis sentie vraiment soutenue. Enfin, j'ai pu faire aussi des partages d'expériences avec des collègues qui ont pu vivre la même chose que moi. Puis des partages d'expériences, notamment sur les questions de port de poids, de charge, comment on peut s'améliorer pour adapter notre outil à notre force. Voilà, moi, je trouve qu'on bénéficie vraiment du fait d'être nombreuses, quoi.
Merci beaucoup. Merci. Donc Claire Barre et Julie Bertrand, je rappelle, vous êtes paysanne associée à la ferme de l'hôpital du Larzac pour Julie et à la ferme des Truelles pour Claire Barre. Vous avez parlé de solidarité, on va en parler dans la deuxième partie aussi. Mais tout d'abord, on fait une pause musicale. Alors qu'est-ce qu'on écoute, Erika et Carole?
Alors là, pour le premier morceau, on a choisi un morceau italien. C'est un morceau qui date de 1914 et en fait on peut vraiment considérer que c'est le premier morceau militant femme paysanne, parce qu'il y a beaucoup de morceaux qui sont chantés par les hommes où les femmes en fait soutiennent la cause paysanne en soutenant leur mari, leurs frères, les cousins, les oncles, et en fait là c'est un chant par les femmes, chanté par les femmes, pour les femmes, pour leurs droits, voilà.
E ça s'appelle La Lega.
Se benché siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, per amor dei nostri figli. Se benché siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, in lega ci mettiamo. C'è l'unione, cromiri col padrone, cromiri col padrone. La libertà non viene perché non c'è l'unione, cromiri col padrone, son tutti da ammazzare. Abbiamo delle belle buone lingue, se benché siamo donne, paura non abbiamo. Abbiamo delle belle buone lingue e ben ci difendiamo. Abbassate la superbia, abbassate la superbia. E voi altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia e aprite il portafoglio.
Oh,
Vous êtes toujours sur Radio Larzac et vous venez d'écouter la Lega, un chant de lutte agricole italien, car aujourd'hui on parle du milieu agricole qui n'échappe pas au sexisme et aux règles du patriarcat.
Alors, pour creuser la question, après avoir discuté avec Julie Bertrand et Claire Barre, paysanne sur le Larzac, on est au téléphone avec Fanny Desmarques. Bonjour.
Bonjour.
Alors Fanny, tu es bergère saisonnière dans le Briançonnais et tu es aussi membre d'un collectif de femmes paysannes, les Paysannes en Polaire, qui vous avez signé avec Maud de Bénézy la BD « Il est où le patron ?». Donc tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous présenter ce collectif, les Paysannes en Polaire ?
Oui, alors on est un collectif de paysannes. Moi j'étais paysanne en Gaec avant d'être bergère. C'est un collectif affinitaire. Et on s'est un peu tout suivi pendant notre installation agricole, pour des moments très chouettes et aussi des moments un peu difficiles. On s'est beaucoup tout soutenu, mais de manière informelle, et puis à un moment on s'est dit que ce serait bien d'en faire quelque chose de concret pour ça, parce qu'on trouvait qu'il y avait du boulot et qu'on aimerait bien que certaines choses changent. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire une bande dessinée. Et on a rencontré Maud Bénézit, qui faisait complètement autre chose dans la vie, mais qui avait aussi envie de se lancer dans la BD. Donc le collectif est né, on lui a trouvé un nom, et on est parti tout en autodidacte pour faire cette BD.
Donc, Il est où le patron ? C'est l'histoire de trois femmes paysannes qui se rencontrent et qui s'entraident. Mais elle est née d'où cette idée, en fait ?
Alors, nous, à la base, on fait partie de collectif féministe, c'est une question qui nous anime toutes pas mal. Une partie d'entre nous, on faisait aussi du TF Forum sur le sexisme en agriculture. Et donc, on jouait les scènes d'oppression. Et après, les personnes dans la salle, du coup, plutôt des paysannes, étaient invitées à monter sur scène pour rejouer les scènes et trouver une autre fin. Et ça marchait bien, et il y avait vraiment un besoin de parler, une envie de créer du lien. Nous, on pouvait pas le faire beaucoup, c'était à de forum, parce qu'on était bien prises par nos activités agricoles. Du coup, on s'est dit qu'un outil écrit, ça pouvait être un bon outil pour la diffuser largement, au-delà de nous, être approprié par d'autres personnes qui sont peut-être isolées, et faire quelque chose qui circule et qui permette de mettre un peu des mots sur ce qu'on vit. Parce qu'en faisant le théâtre forum, vous voyez qu'on a des expériences qui étaient quand même plutôt assez similaires et que tout le sentiment que on avait l'impression que ça arrivait qu'à nous, et en fait ça nous arrivait à toutes, quoi. Donc on avait un peu communiqué là-dessus. Donc le projet est comme ça, cette envie de créer un outil qui nous dépasse un peu, qui a de la nous, et voilà, qui puisse circuler. Et la bande dessinée, ben, on adore les bandes dessinées, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose qu'on aimait bien.
Et comment a-t-elle été construite ? Est-ce que vous avez des ouvrages de référence ?
Alors, on a surtout parti de nos expériences, et aussi de tous les retours qu'on a eu, parce que quand on faisait le théâtre forum, après ça a eu à pas mal de discussions, donc il y avait beaucoup de choses qui ressortaient de vécu. Il y avait aussi en parallèle des groupes de CIVAM, sur la CIVAM, les ADR, et aussi à la Confédération paysanne qui commençait à discuter de ces questions-là. Et du coup, on avait envoyé des petits messages en disant que on était bien preneuse d'expérience. Et avec tout ça, ça avait un gros gloubi-bouga. Et du coup, on s'est dit que c'est des choses qui sont quand même complexes et variées, et que du coup, un seul personnage ne pouvait pas... C'était mieux d'avoir plusieurs personnages pour inclure aussi la diversité des situations. Une néo-rurale, une femme qui est en GAEC avec son époux et qui a des enfants, pour avoir des situations différentes. Du coup, la BD, on n'est parti que du vécu. Donc, principalement du nôtre, mais aussi avec ce qu'on avait recueilli. Et ce qu'on a recueilli, ça nous aidait aussi à savoir ce qui revenait vraiment de manière récurrente, plus souvent. C'est surtout ça qu'on a mis. Et on a attribué tous ces vécus qui sont réels à des personnages fictifs, ce qui nous permettait aussi, nous, un peu de se détacher, parce qu'il y avait des choses qui émotionnellement nous touchaient beaucoup. Donc de partir sur des personnages qui sont quand même nous, mais pas exactement nous, bah, ça nous mettait aussi un peu plus à l'aise. Et ben, on a mis tout ce vécu-là et on a essayé d'en faire un scénario qui se suit. Donc la BD, elle se déroule au cours d'une année agricole et avec des personnages qui se rencontrent. Et aussi, du coup, beaucoup de questions d'amitié entre femmes, de sororité. Parce que nous, c'est ce qu'on a vécu entre nous et c'est ce qui nous a donné beaucoup de force et d'entrain pour continuer, même quand c'était pas facile. Et du coup, on voulait vraiment transmettre ça dans la BD. Donc, c'est vraiment une histoire d'amitié entre femmes.
Et alors, on se demandait aussi comment la BD elle a été reçue dans le milieu paysan. Des personnes se sont-elles reconnues? Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle a pu faire bouger les lignes de certains paysans mexis, par exemple?
Alors nous, on nous pose souvent la question et en fait on réalise qu'on a eu surtout des retours de femmes.
Oui.
Étonnant. En tout cas, la BD a plutôt circulé, mais plutôt dans le sens où c'est des femmes qui ont entendu parler, qui l'ont acheté et qui après l'ont pété à leur mari, à leur voisin, à leur oncle, en leur disant « Tiens, tu devrais la lire ». Voilà. Donc la circulation, enfin des retours qu'on en a eu, vient plutôt des femmes. Pour ce qui est des femmes, alors après c'est peut-être un peu biaisé parce que je pense que les gens qui l'ont pas aimé ont pris la peine de nous le dire.
Oui, c'est sûr.
Donc nous, on a plutôt les retours positifs. Alors je sais pas si c'est objectif, mais en tout cas on a eu des retours assez enthousiastes, justement de, et c'est un peu ce qu'on voulait, donc on est contente de paysannes qui se retrouvent vraiment dans le personnage, qui racontent que c'est leur vécu, qu'elles se retrouvent et qui s'identifient beaucoup au personnage, et ça, ben, on est contente. Et cette dimension-là, c'est ce que je disais un petit peu au début, ça permet de sortir de l'individualité, de se dire que ce qu'on vit, c'est pas juste nous en tant que personne, ou notre voisin, ou notre collègue en tant que personne, c'est on vit dans une société, et c'est des phénomènes de société, et ça permet de prendre du recul et de le vivre un peu mieux. Et après, nous, les retours vraiment enthousiasmants qu'on a eus, c'est que je pense que comme dans la BD, il y a une histoire d'amitié entre femmes qui est très porteuse, il y avait déjà des choses enthousiasmantes, mais ça a pu faire un peu la petite goutte d'eau qui a fait que des paysannes se sont rapprochées de leurs voisines pour soit créer vraiment des collectifs formels, soit être plus en lien et plus s'entraider, ou en tout cas plus échanger. Enfin, tout n'ont pas du tout attendu la BD pour le faire, mais en tout cas, ça a pu faire un petit accélérateur. On a eu des retours dans ce sens-là, par exemple, dans le nord, des paysannes qui ont lu ça, qui après sont regroupées avec leurs voisines pour créer un groupe. Là, elles se voient régulièrement, elles échangent sur leurs pratiques, sur leurs problèmes. Donc ça, nous, c'est juste ce qu'on rêvait, donc on est vraiment contentes que ça ait servi à ça. Et après, pour les retours masculins, en plus, on a quand même été plutôt gentils hein, dans la BD.
Oui.
On a la vertu pédagogique, on a quand même plutôt mis des gars qui étaient plutôt sympas, justement pour qu'ils s'identifient. Comme le but était sensibiliser à la question, si on mettait des personnages trop... on voulait pas mettre des monstres, parce que si on mettait des monstres, en fait... tout le monde allait dire « Ah, il y a des personnes horribles, mais c'est pas moi, moi je suis bien. » Et du coup, nous, on voulait des personnes qui sont plutôt des personnes sympathiques, mais qui, par leur construction sociale ou le fait qu'ils ne soient pas toujours attentifs à certaines choses, ben, créent des interactions qui ne sont pas forcément chouettes pour certaines femmes par moment, même si par ailleurs, c'est des personnes sympathiques. Même malgré qu'on ait fait cet effort-là, on a plutôt eu des retours d'hommes qui disaient « Ah, les autres, c'est pas terrible, mais moi, je me comporte bien. » Donc, voilà, on ne sait pas. Du coup, on a tous quand même à faire des fois des hommes qui se comportent très bien, mais quand on leur demande, ce n'est pas eux. Donc, il y a peut-être quelque chose à creuser.
Oui,
après,
d'ailleurs...
Il y a quand même ouais. qui disent qu'ils se sont retrouvés dans certaines choses... Ils font un peu plus gaffe après à pas dire mon troupeau, à pas dénommer la ferme d'un couple d'amis en parlant comme si c'était la ferme de l'homme.
Ouais. Oui, d'ailleurs, ça rejoint un peu ce que vous écrivez aussi à la fin du livre, où, et je vous cite, vous dites que votre but n'est pas de dénoncer un monde paysan qui serait plus archaïque ou plus macho que d'autres, mais de mettre en lumière les mécanismes du patriarcat, des plus insidieux aux plus visibles. Donc c'est une question un peu vaste, mais d'après ton expérience, quels sont ces mécanismes insidieux dont vous parlez ?
En tout cas, pour qu'il y ait du milieu paysan, enfin, nous, voilà, c'est chouette de dire ça, parce qu'on a eu des retours justement de personnes qui étaient plus citadines ou loin du milieu paysan, qui disaient « Oh là là, ces paysans, vraiment, ils sont arriérés, ils sont encore macho. » Alors que nous, on constate bien qu'on est dans une société où c'est présent partout, et on a plutôt tendance à se renvoyer la balle. Après, les mécanismes spécifiques au milieu agricole, qui sont pas mal ressortis, déjà, c'est l'isolement géographique. Enfin, le fait qu'on est souvent, même, on a une charge de travail qui est bien supérieure à la moyenne. Et du coup, ça se fait au détriment, parfois d'une forme de lien social. On a moins de temps pour aller faire des activités, s'engager, enfin, avoir une vie sociale à l'extérieur. Plus l'isolement géographique, ça va faire un facteur de vulnérabilité. Le sentiment d'être isolé, du coup, on est moins en lien. Le lien, ça nous renforce, et le lien, ça permet aussi de pouvoir discuter quand on commence à avoir une situation qui va pas très bien. Les personnes peuvent soit nous remonter le moral, soit nous alerter pour dire non, mais en fait, là, ce que tu vis, ce n'est pas acceptable, il faut faire quelque chose. Moins on a le lien, moins on a de chance que ça arrive. Et quand on arrive à des situations, enfin, on parle notamment nous deux, vraiment de violence s'est prononcée, plus on est isolé, plus on est fragile et moins on a de chance de s'en sortir. Donc ça fait partie des mécanismes.
Et ça rejoint aussi l'importance de la sororité dont tu parlais aussi.
Ouais, tout à fait, c'est énorme. Et après, dans les choses qui rendent un peu la vie compliquée, c'est souvent cette espèce de gros mélange sans frontières entre le travail et la vie domestique et la vie de famille, où souvent surtout quand on vit sur notre lieu de travail, les tâches sont beaucoup moins segmentées. Et du coup, c'est déjà avec la chose qu'on voit de plus en plus avec la charge mentale, que les sentiments d'être toujours débordé et d'en faire plus. Et là, en plus, sur un mode de vie où il y a rarement une frontière très nette entre qu'est-ce qui est vraiment le boulot de la femme, qu'est-ce qui est part du boulot ouvrier, qu'est-ce qui est lié à la vie domestique, avec des emplois du temps, souvent on jongle et tout est assez intermêlé. Ça fait souvent beaucoup plus grand sensation de fatigue et de saturation, avec le sentiment de qui s'ensuit par un sentiment de dire mais en fait je fais pas grand chose, qu'est-ce que je fais vraiment, j'arrive pas à aboutir à ce que je fais. Et ça, c'est un sentiment qui déstabilise, qui dévalorise et qui du coup aide pas trop à relever la tête. Nous, il y avait l'étude de la MSA qu'on a bien citée. J'ai plus le nom de l'étude, mais c'était une étude sur les couples qui travaillaient ensemble dans des fermes, où ils avaient calculé le nombre de tâches moyennes que les conjoints effectuaient dans la journée. Et en moyenne, je ne sais pas sur quel échantillon ça avait été fait, mais en moyenne, les hommes faisaient 4,5 tâches différentes dans la journée. Les femmes en faisaient 28.
Ah oui,
okay. Et du coup, il y a un gros écart. En faisant 28 choses dans la journée, on est toujours dans le sentiment de ni fait ni faire. Et du coup, en termes de reconnaissance au travail, de dire, mais moi, je sais faire ça, j'ai fait cette chose visible du début à la fin, et j'en suis fière et je peux être reconnue pour ça, et non, c'est plus compliqué. Merci. Et le fait de se sentir valorisé, c'est aussi vraiment une force pour après avoir une existence sociale qui nous permet d'être épanouie et d'avoir toutes les armes nécessaires pour ne pas subir les mécanismes d'oppression.
Merci beaucoup Fanny Desmarques. Je le rappelle, vous êtes, tu es membre de la du collectif Paysanne en Polaire, et la BD que vous avez coécrit avec Maud Benesi et ce collectif s'appelle Il est où le patron, et elle est publiée aux éditions Marabout. Merci beaucoup. Et donc avant de continuer, on a une deuxième pause musicale, Erika.
Oui, c'est moi qui vais la présenter. Voilà, Carole. Du coup, en fait, on a trouvé un morceau Bon, plutôt mélancolique, mais d'une femme qui témoigne de sa condition de trieuse d'olives. Voilà, et elle est assez touchante. Ça s'appelle la Robben des Apaciada. J'arrive pas à le dire.
Desgraciada.
Ouais, merci.
Et on l'écoute tout de suite.
A 22 años contaba el cariño de su padre, trabajadora y cristiana, y a la que el sol ya caía con el fresco de la tarde, va por el huerto a regar y a traerse los tomates. Coge un cubo en la mano y se dirige a la vega, 2 kilómetros del pueblo, aquella honrada doncella. Por fin ha llegado al huerto tan contenta Virgen Santa para recoger el fruto y llevárselo a su casa. Cuando ella sintió cantar y al que ella tanto adoraba, que venía por el camino con su escopeta de caza. Cuando ella sintió cantar y al que ella tanto adoraba, que venía por el camino con su escopeta de caza. Pero antes de llegar y el mozo no la había visto, y ve una perdiz volar y apunta y dispara un tiro. Y consuelo en el huerto detrás de una juncada. Y ella recibió en el pecho y aquí ya perdí gonada. Y ahí Antonio me ha muerto, amor de mi corazón, madre de toda mi alma, mirando al cielo murió. Y su novio que la ve y entre su sangre bañada, perdón te pido amor mío, mi dulce prenda dorada. Ya levántate de ese suelo porque Dios me escuchará, no puedo imar al pueblo porque soy un criminal. Cuando se entere tu padre de esta inocente desgracia, dirán que es un asesino que ha deshonrado su casa.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'actuel sur Radio Larzac. On a parlé de femmes paysannes et Enora, pour sa chronique littéraire, se demande si les paysannes partaient au combat. Elle nous parle d'une BD jeunesse où c'est le cas. Ça s'appelle Bergère guerrière et c'est une folle histoire d'apprentissage. Mais on a oublié la virgule de la chronique littéraire.
Découverte, idée, rencontre.
La chronique littéraire d'Enora dans son avanginaire.
Aventure et imaginaire au creux de vos oreilles.
Donc Enora, cette semaine, nous parle d'une BD jeunesse où il y a des bergères guerrières. Ça s'appelle Bergères guerrières d'ailleurs. Et c'est une histoire d'amitié, de courage et de bouc. Et on l'écoute tout de suite.
Voilà une pépite qui ne paye pas de mine. Dissimulée au rayon jeunesse, Jonathan Garnier et Amélie Fléchet m'ont fait tomber amoureuse de leur BD Bergères guerrières. Oui, vous avez bien compris. On parle d'une armée qui chevauche des boucs de combat. Je dirais même plus. Une armée 100% féminine. Qui chevauchent des boucs de combat. Dans le monde où grandit Molly, les hommes ont disparu lors d'une guerre contre un ennemi inconnu. Aucun n'est revenu. Alors pour se protéger, les femmes ont pris les choses en main. Au revoir les couches et les popotes, bonjour les arcs et les couteaux. Elles forment un groupe d'élite prête à défendre leur village. À dos de bouc. Et à maintenant 10 ans, Molly a l'âge de commencer l'entraînement pour devenir elle aussi une bergère guerrière. J'ai été captée avant même de voir les dessins. Et quand je les ai vus, mama que je suis tombée amoureuse du style tout en rondeur d'Amélie Fléchet. Un côté crayon bois ou aquarelle parfaitement imparfait. S'y ajoute une histoire superbement menée. Certes, on reste sur de la jeunesse, mais Molly et ses amis, filles, garçons et boucs, n'ont pas la vie belle. Elles devront faire face à une véritable menace qui met leur village en danger. Et quand le combat dépasse la zone d'entraînement, Molly et ses amis savent faire preuve d'un bel esprit d'équipe. Tout y est, dans cette BD. Les dessins, la narration à rebondissement, le suspense, des personnages à secret. Écoutez-moi bien, fuyez si vous souhaitez de la jeunesse simple et naïve. Avec Bergère Guerrière, on est face à de la très belle bande dessinée jeunesse dans le sens noble du terme. Et bien sûr, comment ne pas parler de la place des femmes ? Bergère Guerrière offre une jolie représentation pour les jeunes enfants de femmes fortes et charismatiques, aux qualités dites masculines comme l'agilité au combat, la force, la précision, l'endurance. D'autant plus que ces guerrières adulées sont des bergères, de quoi empouvoirer une profession généralement dénigrée. Personnellement, je suis fan du concept. Je suis sûre que la mini-moi aurait adoré voir une jeune fille puissante et déterminée comme Molly, capable de tout pour arriver à son rêve. Qui plus est dans un milieu intelligent, puisque si les femmes sont les figures d'autorité, les hommes trop âgés ou trop jeunes pour être partis au combat ne sont pas oubliés. Amélie Fléchet et Jonathan Garnier induisent une réflexion intéressante sur leur place à eux dans un monde féminin. Et ça fait du bien à lire, croyez-moi. Alors si vous avez besoin d'une œuvre lucide, intelligente, pleine d'espoir, puissante, empouvoirante, lisez Bergère Guerrière. 4 tomes sont déjà sortis chez Glénat. Je me permets une petite recommandation supplémentaire pour compléter la thématique des femmes dans le milieu agricole. Ça s'appelle La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. C'est un roman qui questionne la place des femmes dans une ferme. Quelle est la place des études dans le milieu agricole? Qu'est-ce qui est le plus valorisé? Une fermière ou une infirmière? Le tout saupoudré de secrets de famille. Je vous remercie de m'avoir écouté. D'ici à la prochaine chronique livresque, je vous souhaite de belles découvertes, chers avanginateurs et avanginatrices.
Merci à Enora pour cette chronique littéraire et vous pourrez retrouver les références des livres cités sur la page de l'émission. Donc une BD, c'est une belle idée de cadeau de Noël, mais oui. Carole, Erika, vous en avez d'autres idées de cadeaux comme les fêtes approchent.
Oui, alors en fait, on a aussi donné d'autres BD parce qu'on adore les BD ici et que c'est assez accessible comme moyen de lecture quand on n'aime pas trop lire ou qu'on n'est pas dans ce milieu-là. Alors en fait, il y a 2 livres pour enfants qui sont assez géniaux sur la question du genre et du corps. Il y a le petit illustré de l'intimité. Il y en a 3 versions. Il y a la vulve, le pénis et sur les relations affectives. Et en fait, c'est un livre d'anatomie pour enfants. Mais en fait, quand on le lit adulte, on apprend plein de trucs. Et c'est non binaire, et ça, dans le sens où voilà, les sexes ne sont pas présentés de manière binarisée. Et en fait, je le conseille vraiment à tout le monde. Et je conseille de l'offrir à nos neveux, nièces, voilà, toute la famille. Et il y a aussi Rose Bonbon, qui est un livre pour enfants sur le genre d'Adéla Turin. Et là, ça questionne vraiment comment on est genré au féminin ou au masculin. Et c'est à travers des petits éléphants. Voilà, les filles, elles doivent manger des pivoines et elles doivent rester enfermées dans des enclos avec des collerettes pour rester roses. Et les garçons ont le droit de faire ce qu'ils veulent, grosso modo. Et en BD, on a un coup de cœur au planning familial ce mois-ci. C'est l'interprétation en BD du livre de Martin Winkler, Le cœur des femmes, dessiné et mis en BD par Aude Mermillot. Là c'est magnifique parce que ça traite de la question aussi de l'intersexualité et c'est très touchant et les violences médicales et en fait on suit le parcours d'un médecin qui évolue dans sa posture vis-à-vis de la médecine et des patientes et des femmes et voilà, c'est super. Et surtout ne pas oublier, vous pouvez offrir aussi Il est où le patron, la BD dont on a parlé au début qui est vraiment géniale et nous on l'utilise au planning en dehors du milieu de la paysannerie pour montrer le sexisme au quotidien.
Erika, tu avais d'autres conseils de cadeaux féministes?
Oui, j'ai pensé à une BD qui, en fait c'est toute une série de fanzines qui ont été rééditées de Alison Bechdel. Voilà, ça on le trouve dans, je pense, pas mal de librairies féministes. Moi, je l'ai trouvé récemment à Paris et c'est trop bien. Franchement, ça fait beaucoup rire. C'est sur le lesbianisme. Donc, c'est plutôt assez drôle et ça se passe dans les années 90, j'allais dire 90, mais Tu peux. Je veux dire 90.
Bah, merci pour ces idées de cadeaux de Noël non genrés et féministes. Et on arrive à la fin de l'émission. Donc merci Carole et Erika pour cette nouvelle émission féministe L'Actuelle. On se retrouve en janvier pour une nouvelle émission. Et juste avant de conclure, je vous rappelle, puisqu'on a parlé d'agriculture et du Larzac, le spectacle Larzac point d'exclamation de Philippe Durand qui sera au théâtre de la Maison du Peuple de Millau ce mercredi 7 décembre à 20h30. Et ça parle aussi de la CTL qu'on a évoquée au cours de cette émission.
Et aussi le mercredi 7 décembre, si vous voulez vous faire dépister gratuit anonymement, on fait des trods au planning familial. Donc vous saurez en 5 minutes si vous avez le VIH, l'hépatite B ou l'hépatite C. Et c'est assez important parce qu'aujourd'hui, on est le 1er décembre et c'est la journée internationale de lutte contre le VIH, le sida.
Merci Carole de l'avoir rappelé. Et merci à Erika aussi pour le choix des musiques. Merci à Nico pour la technique. Et merci surtout à vous toutes et tous de nous avoir écoutés. Alors, cette émission est rediffusée vendredi à 19h. Et là, tout de suite, c'est le Flash Info de RFI sur Radio Larzac. Très, très belle écoute à vous. Et surtout, passez de belles fêtes féministes.
Yeah.